merci à Roland et à Frédéric de m'avoir convié à participer à cette table ronde. Je dois vous dire que je bois du petit lait, tellement la qualité des débats est immense, ne serait-ce que ce qui vient d'être dit maintenant. Ce matin, on ne peut pas dissocier finalement ce qui a été dit ce matin et ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors, témoin, c'est le témoignage avec ce qu'il a également de parti pris, c'est-à-dire de ressenti aussi de celui qui témoigne, qui va, même inconsciemment, accorder plus d'importance à certaines choses qu'à d'autres, étant donné ses propres croyances et ses propres valeurs. Dès ce matin, mon attention a été attirée sur quelque chose qui me paraît fondamental, modèle-hypothèse. Deux mots qui ont été extrêmement présents dans cette table ronde et qui me paraissent servir finalement de synthèse, en tout cas provisoire. Modèle, un modèle, qu'est-ce que c'est au fond? C'est une représentation simplifiée de la réalité. Mais un modèle n'est vrai que par rapport aux hypothèses qui le font. Et ça me paraît fondamentalement important. Un modèle n'est vrai que par rapport aux hypothèses qui le font. Autrement dit, déjà, vouloir critiquer un modèle, c'est en réalité critiquer les hypothèses qui font de le modèle. En finance, on vit depuis de longues années dans l'héritage de la finance néoclassique et libérale et des hypothèses qui ont fondé le modèle classique et libéral. Et moi, personnellement, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ces hypothèses extrêmement restrictives, extrêmement contraignantes, et les progrès qui ont pu être faits au cours des années consistent en réalité à se débarrasser, à lever ces hypothèses restrictives. Beaucoup de ces hypothèses ont été évoquées de façon éparse depuis ce matin. Certaines ne l'ont pas été. Pourtant, elles sont fondamentales. Car en fait, vouloir définir de nouveaux cadres, c'est se débarrasser des paradigmes ou lever les paradigmes du modèle de base. Il y a deux aspects qui n'ont pas été évoqués suffisamment à mes yeux. C'est le paradigme de rationalité et c'est le paradigme, l'hypothèse extrêmement forte de passivité des acteurs dans le modèle classique de base. Je retiens ces deux pour ne pas revenir sur tout ce qui a pu être dit déjà. N'oublions pas que l'hypothèse paradigme même de rationalité, c'est le fondement de l'homo economicus. Et que on ne peut pas comprendre le modèle classique et les modèles dérivés si on fait abstraction de ce paradigme. Et donc si aujourd'hui il y a une rupture paradigmatique en réintroduisant en ayant la volonté de réintroduire les comportements réels des acteurs pour s'approcher de la finance comportementale, c'est une vraie rupture pour moi par rapport au modèle de base. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Le deuxième point qui me paraît fondamental, c'est que tous ces modèles considèrent que l'acteur, le décideur, il est passif. On vous parle de la firme, considérée d'ailleurs comme une boîte noire. Et il a fallu attendre, si vous voulez, les travaux autour de la théorie de l'agence pour qu'on regarde ce qui se passait à l'intérieur de la boîte noire et que l'on s'aperçoive au fond que les acteurs pouvaient être actifs, ayant des attentes différentes les uns des autres. Ça me paraît très très important. Qu'est-ce que ça implique finalement? Ça implique que pour moi, tout ce qui tourne autour de la finance doit emprunter fondamentalement aux différentes disciplines. Si l'on veut regarder les comportements réels des acteurs, ce que les marketeurs ont fait depuis longtemps, et ce que les économistes avaient fait aussi depuis longtemps, souvenons-nous de l'article de base de Jon Elster dans les années 80, dans le Journal of Political Economy, Theory of Emotion, la prise en compte des émotions dans la décision. On est loin de la rationalité du comportement de l'acteur, ce qui me paraît extrêmement important, avec tous les biais comportementaux que cela peut induire. Puisque finalement, si le décideur n'est pas rationnel, et même au-delà de la rationalité limitée de Simon, s'il décide en fonction d'émotions du moment, évidemment, on comprend mieux pourquoi la thèse de l'inefficience des marchés financiers peut être développée. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la théorie financière a été bâtie pour les seules sociétés cotées. C'est une finance des sociétés cotées. Or, l'immense majorité des sociétés ne sont pas cotées. Par conséquent, si vous voulez réfléchir sur ce que peut être la finance, c'est aussi prendre en considération le monde de la finance pour les sociétés non cotées. Et là, on s'aperçoit déjà que la dictature, et je pèse mes mots, du court terme, pour répondre à l'objectif de la théorie financière traditionnelle, à savoir la maximisation de la valeur actionnariale, ne correspond pas du tout à la finance dans les sociétés non cotées, qui s'inscrivent fondamentalement dans une vision de long terme et où la valeur se crée dans le temps et donc sont plus proches d'une vision de développement durable que les sociétés strictement cotées. Donc ça me paraît tout à fait intéressant, si vous voulez, à regarder la finalité. Friedman posait très bien le problème déjà dans les années 60. Un modèle vaut-il mieux par les hypothèses qui le fondent ou par les conclusions auxquelles il aboutit? C'est fondamental à mes yeux. Pendant très longtemps, on a accordé beaucoup d'importance aux hypothèses des modèles. Nous avions affaire à des modèles normatifs. Voilà ce qu'il faut faire pour que. Et donc, on s'inscrivait fondamentalement dans une vision positiviste, à mes yeux. C'est-à-dire où l'outil mathématique, pour aider d'ailleurs à donner un caractère scientifique à la finance, n'oublions pas quand même que, à titre personnel, je considère qu'il y a un avant 58 et un après 58. C'est-à-dire l'article fondamental de Modigliani et Miller sur la détermination du coût du capital et surtout sur la vérification empirique qui fut faite, grâce à l'apport de l'économétrie, technique totalement récente, et qui a permis le développement d'une finance scientifique. Donc on ne peut pas séparer le progrès des modèles mathématiques, des modèles financiers, en le dissociant des progrès réalisés au niveau de l'outillage et de l'appareillage mathématique et statistique. L'économétrie a beaucoup servi, si vous voulez, le développement de cette finance positiviste, hypothético-déductive. Mais si aujourd'hui, quand on s'intéresse à la finance dite organisationnelle ou à la finance comportementale, on accordait plus d'importance aux conclusions des modèles qu'à leurs hypothèses, puisque les modèles seraient bâtis à partir des observations que l'on peut faire, c'est-à-dire que l'on s'intéresserait à une approche plus constructiviste, on changerait fondamentalement aussi la finalité des choses. Donc, si vous voulez, je trouve, pour prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit est fondamentalement intéressant à mes yeux. Alors, il y a une interrogation. Et oui, on remet en cause un certain nombre de choses. On enseigne aujourd'hui la finance comportementale, on enseigne la finance responsable, on enseigne la finance dans le cadre des sociétés non cotées. Mais est-ce qu'on est arrivé à un modèle général, si vous voulez? C'est un peu la question de Philippe. Je n'en suis pas certain, mais il y a quand même, et vous en avez témoigné, une véritable quand même volonté de remise en cause, si vous voulez, de ces hypothèses des modèles fondateurs. Ça me paraît fondamental. J'ai